Chapitre 4. Tunis. La chapelle de Saint-Louis. Le tombeau des Abencérages. Les marionnettes. Justice du Bey. Le port. Un prétendu marchand de corail. La felouque. Un mendiant. Horace Verpré s'embarque. Retour du cormoran. Ce qui se passait à bord de la felouque. Regret des trois amis. Projet de vengeance, la rade d'Aboukir, un souvenir historique, Alexandrie, premier salut à l'Égypte, voyage à pied, le Nil, le marchand d'eau, une ravine, chasse aux crocodiles, le poignard des nègres, un coup de fusil. Voilà Tunis, s'écria Robert Kergorieux en apercevant de loin à l'horizon les minarets d'une douzaine de hautes mosquées. Les quatre voyageurs ne tardèrent pas à faire leur entrée dans cette ville que les vieux géographes nommaient la perle de la Régence. Tunis la Blanche, ainsi nommée à cause de la couleur de ses maisons, est située à 6 kilomètres environ de l'ancienne Carthage. On la bâtit avec les débris de la rivale de Rome. Il n'est pas rare de rencontrer, çà et là, dans ces rues, un tronçon de marbre vert soutenant un banc arabe ou quelques colonnes antiques servant de pilier à une porte. En réalité, l'Afrique ne commence que dans cette cité, dont la majorité des habitants est composée de Turcs, de Maures, de Juifs et de trafiquants de tout le littoral africain. Jacques ne manquait sans doute pas de signaler quelques Européens affairés qui traversaient les places et les carrefours, suivis ou précédés de portefaix. Ce sont des négociants de Marseille qui viennent ici faire leur fortune en 4 ou 5 ans, disait-il. Ces Français, qui n'avaient d'oriental que le fez traditionnel, marchaient d'un air dégagé, comme s'ils se fussent trouvés dans leur propre pays. C'est que Tunis est maintenant une ville hospitalière où les chrétiens ne sont plus inquiétés. L'histoire rapporte qu'à la suite de la seconde croisade, Saint-Louis est mort sur cette terre et un monument votif, une chapelle chrétienne, rappelle ce grand souvenir. Par les soins de notre consul, les Européens peuvent y faire en toute liberté un pèlerinage qui n'est jamais inquiété. Un autre édifice d'un style funéraire se trouve aux alentours et pour ainsi dire aux portes de Tunis. Des vers en caractère arabe disent aux passants que sous ces dômes funèbres reposent les anciens Abencérages. En dépit de ces souvenirs, il n'y a pas dans toute la contrée de ville où la gaieté soit plus bruyante. Les vaisseaux qui vont et viennent apporte sans relâche dans le port les produits de tous les climats. L'abondance réjouit sans cesse ces carrefours où les joueurs de guitare chantent leurs chansons, où les marchands de comestibles vendent des sorbets et des pastèques, où les bateleurs font leur tour, où des almées venues d'Égypte dansent au bruit du tambourin. Ils contemplaient ce spectacle forain quand un attroupement considérable de cavaliers et de piétons passa à côté d'eux. Des cavasses, sorte de gendarmes à cheval, suivis d'un groupe nombreux de gens du peuple, conduisaient au palais du Bey un grand jeune homme à figure pâle, enveloppé des pieds à la tête des plis de son manteau. Horace Verpré arrêta un des passants pour lui demander ce que c'était que ces soldats et ce long cortège. « Seigneur étranger, lui dit le passant dans cet idiome bizarre, moitié arabe, moitié italien, qu'on appelle la langue franque, il s'agit d'une aventure extraordinaire. Pouvons-nous la connaître ? Sans doute. » Le Tunisien fit une très légère pause et ajouta. « Hassan Aziz, notre Bey, tient à imiter le calife Harun al-Rachid, qu'il croit être un de ses ancêtres. Comme ce prince des légendes, il se plaît à rendre une justice sommaire. Aussi, déguisé, pour qu'on ne le reconnaisse pas, et accompagné de quelques officiers, il se promène souvent la nuit dans les rues de sa capitale, afin de voir et d'entendre par lui-même. Très défiant, il est porté à supposer que la lenteur des tribunaux et la corruption des hommes peuvent aisément faire absoudre un coupable et condamner un innocent. « Je suis juge moi-même, » dit-il. « Je suis bien sûr de ne me laisser séduire ni par l'or ni par les larmes, et la sentence que je prononce est sans appel. » Or, la nuit dernière, Hassan Aziz, passant dans le bazar, a entendu les plaintes d'une négresse libre. « Pourquoi vous lamentez-vous ainsi, brave femme ?» lui a-t-il demandé. « C'est, » a-t-elle répondu, « à cause du boucher Hamedi. »« Que vous a fait cette Hamedi ?»« Il m'a vendu de la viande gâtée et à faux poids. » Ici, le bey se fit connaître de la plaignante. « Écoute, » lui dit-il, « si tu mens, je te fais couper la langue. Si c'est le boucher qui est coupable, il le paiera cher. » En parlant ainsi, il expédia deux officiers chez le marchand afin de s'assurer de la vérité de l'accusation. « Seigneur, » répondirent les deux envoyés, « la négresse n'a pas menti. »« Eh bien, c'est le boucher prévaricateur qui paiera, » répondit le bey. Et il le condamna à voir le point droit coupé chez lui-même sur le billot de sa boutique. « Voilà une sentence vraiment terrible, » dit l'un des quatre Français. « Attendez, ce n'est pas fini, » poursuivit le narrateur. « Suivant la volonté du prince, le jugement devait être exécuté ce matin même. Il y a une demi-heure, les soldats que vous voyez en tête du cortège voulurent se mettre en mesure de châtier le coupable. J'étais présent, j'ai tout vu. Ce grand jeune homme pâle, Jemil Hamedi, le fils du malheureux, arrive. Il demande la cause du tumulte qui règne dans sa maison, et l'ayant apprise, il saisit son père par ses vêtements, l'en dépouille avec cruauté et l'accable de coups et d'outrages. « Ah, malheureux !» lui dit-il, « tu déshonores ta famille, tu t'avilis pour posséder quelques pièces d'argent, tu mérites le sort qui t'est réservé, et je demande comme grâce spéciale que ce soit moi qui exécute la sentence du bey. » Ici, les soldats tour à tour touchés de tant d'héroïsme et indignés de tant de cruauté se refusèrent au vœu du jeune homme. On dépêcha cependant un express vers Hassan Aziz pour l'instruire de ce qui se passait. « Un fils qui veut être le bourreau de son père !» s'écria le bey courroucé. « Voilà un effronté scélérat !» Puis, se ravisant, « Allez, dites à ce jeune homme que je lui permets d'agir, qu'il exécute sur le champ la sentence que j'ai portée, et qu'il vienne aussitôt déposer à mes pieds le poing coupé, gage de son obéissance. » À peine cette permission fut-elle accordée que Jemil Hamedi saisit son père. Il l'entraîna de vive force vers un arrière-magasin, plaça sa main sur un billot, et les gardes stupéfaits entendirent un cri lugubre, poussé par l'infortuné si cruellement traité par un fils. Celui-ci, d'un pas ferme et à demi couvert de son manteau, s'avance alors vers les soldats. Il leur présente le poing coupé et les invite à se retirer. « Non, » dit le chef des cavasses, « nous avons l'ordre de te conduire auprès du bey. Il prétend récompenser ton obéissance et ton courage. Obéis et suis-nous. » « Voilà où en sont les choses, » ajouta le passant. « Nous allons voir maintenant de quelle manière tout ceci va finir. » Ému par cette dramatique histoire, ils voulurent suivre la foule et arrivèrent avec le narrateur jusque dans la salle du palais où le bey rendait la justice. « Te voilà le plus obéissant de mes sujets !» s'écria Hassan Aziz. « As-tu exécuté mes ordres ?»« Oui, seigneur. » »« Où est la preuve de ton obéissance ?»« La voilà, seigneur. » dit le jeune homme en jetant le poignet sur le parquet. Indigné de tant d'horreur, le bey allait ordonner qu'on abattît la tête de ce monstre d'un coup de cimeterre, quand un des plis du manteau laissa à nu le bras droit de Jemil Hamedi. On s'aperçut alors que c'était son propre poignet qu'avait coupé le fils du boucher. Un long cri d'admiration partit de la foule. « Jemil Hamedi !» s'écria le bey fortement impressionné par cette scène. « Tu es le plus héroïque des fils. Un chirurgien du palais va panser ta blessure, et tu seras, à dater de demain, un des dignitaires de l'État. » Cette histoire dramatique, dont le hasard venait de les rendre témoins, avait vivement impressionné les quatre amis. Jamais le dévouement d'un fils envers son père ne s'était montré à leurs yeux d'une manière aussi noble et aussi touchante. Robert et Horace exaltaient beaucoup la vertu de Jemil Hamedi, qui avait poussé l'héroïsme jusqu'à dissimuler qu'il s'était mutilé lui-même. En parlant ainsi de ce qu'il venait de voir, il prenait le chemin qui mène au port, car l'heure approchait où il devait retrouver le cormoran et son équipage. Tout en marchant, il considérait cette ville étrange, ses maisons sans fenêtres, ses ruelles étroites, et tout cet air de mystère répandu dans tous les quartiers. « Nous venons d'assister à un spectacle des plus dramatiques, » disait Jacques. « Combien de faits du même genre ne se passent-ils pas dans ces murs ? Tunis est aujourd'hui une ville de négoces où l'on fait le commerce du café, de la gomme, de la soie, des perles et des chevaux. Il y a 30 ans, c'était un nid de pirates. La caque sent toujours le hareng, s'il faut en croire un proverbe de notre pays. On trouverait sans doute encore en ce moment plus d'un écumeur des mers. » Tout en marchant et en causant à travers les faubourgs, ils se trouvèrent sur une des hauteurs de la ville, d'où ils jouirent d'un magnifique panorama, et peu après ils arrivaient au port. Sur la jetée, en vue de la rade, ils regardaient à l'aide d'une lunette d'approche. Presque tous les drapeaux connus flottaient au mât des nombreux vaisseaux qu'ils avaient sous les yeux. Cependant, ils n'apercevaient pas le pavillon français. Un petit homme au teint olivâtre vint à eux. « Seigneur étranger, dit-il en s'inclinant et en se servant toujours de la langue franque, puis-je vous demander ce que vous cherchez par ici ?» Robert prit la parole en essayant d'imiter le langage de l'inconnu. « Nous cherchons, dit-il, un navire français qui devrait être arrivé d'Alger ici depuis ce matin. Comment l'appelez-vous ? Le brick, le cormoran. » Le petit homme fit mine de se frapper le front comme pour s'efforcer de réveiller un souvenir dans sa tête, puis il répéta coup sur coup. « Le cormoran, le cormoran, je ne connais pas de brick de ce nom-là. » Il allait se retirer quand il interpella la petite troupe par ces mots. « Tenez, adressez-vous à ce seigneur que voilà assis sur des cordages. « Ayoub Ben Elim est le meilleur marin du pays et l'homme qui connaît le mieux le port de Tunis. » Celui qu'il venait de désigner de cette sorte était un mort déjà sur le retour de l'âge. Il avait sur la tête un turban moitié blanc et moitié rouge. Voyant que les étrangers se dirigeaient de son côté, il ôta de ses lèvres le bout de son chibouk et leur dit: « Qu'Allah soit avec vous, enfants de l'Europe. Qu'y a-t-il pour votre service ?» Robert renouvela les questions qu'il venait de faire sur le brick. « Un navire français, appelé le Cormoran, reprit le mort. « Il me semble l'avoir rencontré hier dans ces parages. « Eh non, sans doute, je ne me trompe pas, » ajouta-t-il. « Mais comment l'avez-vous rencontré ?» demanda Horace. Le mort se leva et tournant son index du côté de la mer. « Tenez, » poursuivit-il, « voyez-vous cette petite felouque qu'on est en train de charger pour un très prochain départ ? C'est la barque dont je suis le patron. Sachez, en effet, que je suis pêcheur de corail de mon métier. Les miens et moi, nous prenons la mer toutes les nuits pour visiter ces parages, puis nous portons l'objet de notre commerce aux îles Baléares, à Alger, en Sicile ou en Sardaigne. Voilà pourquoi j'ai pu rencontrer votre brick hier dans la soirée. » En ce moment, un homme qu'on n'avait pas encore vu, un vieux mendiant couvert d'un long vêtement d'étoffe brune qui lui descendait jusqu'aux pieds, s'approcha des étrangers et leur tendit humblement la main comme pour leur demander l'aumône. Horace Verpré lui tendit une petite pièce blanche. Pendant que les trois autres écoutaient encore le marin, le nouveau venu, tout en faisant un signe de remerciement, murmurait à demi-voix ces paroles obscures comme une énigme. « Seigneur, ne prêtez pas l'oreille à toutes les fables qu'on vous fera. Seigneur, Ne faites pas tout ce qu'on cherchera à vous faire faire. »
Que dis-tu là, mendiant ?
S'écria le mort en se tournant avec colère du côté du pauvre homme.
Cette engeance ressemble au scorpion, elle pique en rampant. Quelle parole a-t-il marmotté tout à l'heure ?
L'homme à la main tendue était déjà loin, et Horace Verpré, tout ému, protestait n'avoir rien compris à son langage.
Ayoub ben Elim reprit.
« Ainsi que je vous le disais, j'ai donc entrevu votre brick français hier au soir. Vous savez qu'il y a eu depuis quelques jours de terribles coups de vent sur la Méditerranée. Le navire avait beaucoup souffert. Il était dématé et à demi échoué sur la côte, près des rochers de Belle Abbesse. »
Jacques ne put s'empêcher de dresser l'oreille.
« Le cormoran à demi échoué ? » s'écria-t-il. « Croyez-vous que ce soit sérieux ? Pensez-vous que ce soit un naufrage ?»« Tout ce que je puis vous dire, » ajouta le mort, « c'est qu'au moment où je revenais sur ma felouque dans ce port, c'est-à-dire à l'abri, la fureur des coups de vent redoublait. J'ai eu moi-même toutes les peines du monde à éviter les avaries. »
Nos quatre amis ne pouvaient plus détacher leurs pensées du sinistre dont on venait de leur faire le récit.
« On tirait le canon d'alarme, » dit encore Ayoub ben Elim. « Des hommes placés sur le pont agitaient des mouchoirs blancs en signe de détresse. Mais qu'aurait pu faire en pareille circonstance un pauvre pêcheur de corail accompagné de 5 matelots sur une mince felouque déjà entamée elle-même par le gros temps ?»«
Allons !» s'écria Robert Kergorieux. « Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller voir ce qu'est devenu le cormoran. Qui sait si nos amis n'ont pas besoin de nous ?»«
Seigneur étranger !» recommença à dire le marin. « Je mets à votre disposition ma felouque qui est prête à partir, son équipage et moi-même. »«
Eh bien, partons, partons !» dirent les trois jeunes gens d'une commune voix.
« Un moment !»
répartit Jacques, qui avait un peu plus de sang-froid.
« Un moment, mes enfants, puisque ce généreux patron veut bien nous offrir sa barque et le concours de ses matelots, il n'est pas nécessaire de nous mettre en mer tous les quatre. Il suffit qu'un seul parte pour aller voir ce qui se passe. »
Ici, le pêcheur de corail assura, sur le nom du prophète, que l'entreprise n'avait rien de périlleux et que la course ne demanderait au plus que 2 ou 3 heures.
« Peu importe, » poursuivit Jacques, « un seul se chargera du message. »
Et comme tous les trois voulaient partir, on convint de tirer à la carabine sur une feuille de papier blanc disposée en forme de cible. Jacques y avait dessiné un rond au crayon noir. Il était dit qu'on tirerait à 25 pas.
« Celui qui tirera le plus près du rond aura gagné, » dit l'ancien matelot.
Robert s'était trop pressé. Claude Marteau avait été gauche. Ce fut Horace qui l'emporta.
« Heureux Horace !» dirent les deux jeunes gens à leurs camarades. « Tu vas donc pouvoir affronter un danger !»
Pendant la fin de cette scène, Ayoub ben Elim, qui était descendu sur le chemin de halage, achevait de donner des ordres à son équipage. 10 minutes après, le son d'une cloche annonçait que tous les préparatifs du départ étaient terminés. Ayoub ben Elim s'avança en affectant de sourire vers le groupe des 4 amis.
« Mon jeune seigneur, » dit-il en s'adressant à Horace, « vous entendez le signal ? Nous n'avons plus qu'à sauter dans la barque et à partir. »«
Fort bien, seigneur, je vous suis, » répondit Verpré. Là-dessus, se tournant du côté de Jacques et de ses 2 jeunes compagnons, « il s'agit d'une trop courte absence pour que je vous dise adieu, » ajouta-t-il. « Aussi, c'est à revoir et à bientôt. » Au bout d'un instant, notre Breton était debout sur la proue de la felouque. Comme les voiles de l'embarcation étaient déployées et qu'elle avait le vent en poupe, l'équipage ne tarda pas à sortir de la rade. Bientôt, elle ne parut pas plus grosse qu'une mouette ou qu'un goéland. C'est qu'elle entrait en pleine mer.
« 2 ou 3 heures, » disait alors Robert Kergorieux. « Ce n'est rien dans une journée.
Eh bien, c'est étrange, mais voilà qu'au fond du cœur j'éprouve le regret d'avoir laissé partir Horace. Je crains de ne plus le revoir. »«
Es-tu fou avec tes regrets ?» répondit Jacques. « Ce marchand de corail qui a bien voulu le prendre à son bord est un des marins les plus connus de Tunis. De deux choses l'une, ou il déposera notre ami à bord du cormoran, s'il le rencontre en route, ou bien il nous le ramènera dans le délai convenu. Que Dieu t'entende, Jacques. Robert Kergorieux n'avait pas achevé ces mots qu'une sorte de ricanement moqueur se faisait entendre derrière eux. Ils tournèrent la tête et aperçurent l'homme en haillons que le mort avait gourmandé un quart d'heure auparavant. « Ah, c'est le mendiant !» dit Claude Marteau. « Un pauvre homme privé de raison !» Dans le même moment, un bruit soudain retentit dans la rade. « Un, deux, trois coups de canon !» s'écria Jacques. D'un fort voisin, trois coups de canon répondaient sans retard. « Cela nous annonce un vaisseau qui entre dans le port ?» dit Robert. Ils prirent leur lorgnette, regardèrent avec attention et aperçurent au haut du mât la flamme aux trois couleurs. « C'est un drapeau français ?» reprit Claude Marteau. « C'est le cormoran ?» poursuivit Jacques. « Viva !» dit à son tour Robert. « En chemin, la felouque du pêcheur de corail aura transbordé Horace sur le brick. Nous allons revoir notre ami. » Le brick, qui avait, comme on le sait, un long voyage à faire, n'entrait dans le port de Tunis que pour y faire une station de quelques instants, le temps de laisser des dépêches au consulat français et de reprendre à bord les quatre amis. Ces derniers, qui ne se trouvaient plus que trois, étaient intimement convaincus qu'en montant sur l'avant, ils allaient retrouver Horace Verpré. « Une chaloupe ! Une chaloupe » disait-il, « et montons vite sur le pont !» Ils traversèrent donc le bassin dans un bateau et abordèrent le brick. « Horace Verpré, est-ce qu'on ne vous a pas remis Horace en mer ?» demanda aussitôt Robert Kergorieux au capitaine. L'officier répondit qu'il ne comprenait rien à ce qu'on lui demandait. « À deux ou trois brasses de la rade, dit l'officier, nous avons bien aperçu une felouque portant pavillon tunisien, mais d'abord, elle avait l'air de nous éviter, et ensuite, nous n'avons pas à faire la police de ses mers. » Jacques, consterné, expliqua alors ce qui venait de se passer. « dit le maître timonier. Vieux loup de mer qui avait entendu ce récit. « Votre Ayoub Ben Elim m'a tout l'air d'être un pêcheur de corail, comme je suis un avocat plaidant. C'est bien plutôt un effronté corsaire barbaresque qui, par ruse, s'est emparé d'un de vos jeunes compagnons pour en faire un apprenti pirate. » Le maître timonier ne disait que trop vrai. Tant que la felouque avait été en vue de Tunis, c'est-à-dire dans les eaux de la rade, Ayoub Ben Elim, jouant toujours son rôle de protecteur, n'avait pas cessé d'entourer le jeune Français de politesse presque obséquieuse. Aussitôt qu'on fut en pleine mer, le langage et les manières du prétendu pêcheur de corail changèrent au point qu'Horace Verpré n'eut pas longtemps à se faire illusion. « Écoute, lui dit le patron en riant d'une manière satanique, considère-toi maintenant comme un bel oiseau en cage. À dater d'à présent, tu vas t'arranger de manière à ressembler aux cinq diables que voilà !» Et il lui montrait les cinq matelots de son équipage. À quelques instants de cette interpellation, un des corsaires avait signalé le cormoran. Le cœur d'Horace Verpré n'avait pu se défendre de battre avec violence. « Tout beau, mon petit ami !» s'écriait Ayoub Ben Elim en tirant de sa ceinture un pistolet qu'il braquait sur la poitrine du jeune homme. « Tout beau !» Si tu pousses un cri ou si tu fais un geste qui puisse attirer l'attention du brick sur nous, je lâche le chien et tu es mort. » Le cormoran, on le sait, ne devait que relâcher à Tunis. Il nous faudrait consacrer 10 années consécutives à visiter l'Orient si nous devions y voir en détail tout ce qu'il y a d'intéressant, disait le capitaine. Aussi n'avons-nous que quelques heures à donner à certains points déjà connus des Européens. Nous reprendrons la mer sans nous arrêter à cette ville des États barbaresques. » En effet, une heure s'était à peine écoulée que le brick sortait du port pour se diriger sur Alexandrie. Tout le temps que dura la traversée, les trois amis étaient en proie à la plus amère tristesse. Horace Verpré, emmené sur une felouque à travers les mers par un pirate, devenait pour eux un sujet constant de chagrin et la cause d'une sorte de remords. Jacques, dont la vigilance avait été mise en défaut, s'accusait tout haut d'incurie. Il ne se pardonnait pas la faiblesse avec laquelle il avait ajouté foi à la parole trompeuse du Forban. Robert Kergorieux, animé d'une généreuse indignation, parlait de se mettre à la recherche de son ami une fois qu'il serait arrivé en Égypte. « Horace est brave, disait-il. À nous deux, nous viendrons bien à bout des hommes de la felouque et de leur indigne patron. » Un vieux pilote du navire, homme de bon conseil, cherchait de son côté à les consoler. Il les prenait à part pour leur dire « Aussitôt que nous serons arrivés à Alexandrie, vous laisserez au consulat européen le signalement du jeune homme enlevé. En très peu de temps, on se transmettra ces renseignements sur les deux rives de la Méditerranée. On les enverra sur des paquebots à tous les bâtiments de la marine chrétienne qui sont chargés de faire la police dans ces parages. Vous n'ignorez pas sans doute que les corsaires de Barbarie sont l'objet d'une surveillance des plus sévères. Tout pirate sur lequel on parvient à mettre la main est pendu à son mât. Tout écumeur des mers a son embarcation saisie. Les vrais marins sont intéressés à ce que les prises soient fréquentes. Je vous promets qu'avant un mois, on vous ramènera votre jeune ami. » Ce discours d'un homme qui connaissait le pays faisait un peu l'effet d'un baume sur la vive blessure de ses trois cœurs. « Au fait, reprenait Robert moins rembruni, quelque chose me dit que mon cher Horace n'est point perdu pour nous et que nous le reverrons dans un temps prochain. » Il n'y a pas de douleur que la patience n'allège, ni de chagrin que le temps ne guérisse. L'espérance diminuait leur mal. Au moment où l'on arrivait en vue d'Alexandrie, Jacques, Robert et Claude avaient le cœur moins gros. Ils n'étaient sans doute pas consolés tout à fait, mais un certain calme rafraîchissait leurs pensées. En ce moment, un homme de l'équipage murmura un mot terrible, « Aboukir !» En se penchant sur l'entrepont, les passagers apercevaient cette rade au nom terrible et douloureux où, malgré l'héroïsme de trois amiraux et les prodiges de valeur de 10 navires, le drapeau français a été humilié pendant la moitié d'une nuit sinistre. Jacques, qui connaissait particulièrement cette histoire, ne pouvait s'empêcher d'en dire deux mots à ses jeunes compagnons. Il rappela dont l'amiral anglais Nelson, se présentant à l'improviste auprès du rocher et engageant la bataille au moment où le jour baissait. Bruet, notre amiral, commandait l'Orient, vaisseau de 120 canons, le même qui venait d'amener en Égypte le général Bonaparte, ses lieutenants et 20 membres de l'Institut. Bruet, après s'être battu comme un lion, fut coupé en deux par un boulet. On voulut le descendre à l'ambulance sur un matelas. « Non, dit-il, qu'on me laisse debout sur le pont. Un amiral doit mourir en donnant des ordres. » Et il expira 10 minutes après. Sur le même navire, le capitaine Casabianca, grièvement blessé, voyait les flammes gagner la cabine où il était. Auprès de lui se tenait son jeune fils. On disait à ce dernier, « Le navire va sauter, venez avec nous, sauvez-vous. » « Non, répondait l'enfant, je ne peux que vivre et mourir avec mon père. » Et un quart d'heure après, la sainte barbe s'enflammant, le vaisseau amiral sautait, entraînant dans son désastre le père et le fils. Jacques ajoutait, des yeux français ne sauraient regarder sans larmes et sans colère cette rade d'Aboukir. Passons vite. Le cormoran avait l'air de se hâter. Alexandrie n'était pas loin. Alexandrie, au contraire, rappelait un souvenir glorieux. C'était là que Kléber et Dessay avaient aidé le futur vainqueur des pyramides à opérer le débarquement de cette valeureuse armée. C'était sous ces murs qu'avait été remportée la première victoire. À la vue de l'Égypte, le filleul de Robert Surcouf sentit tout à coup sa langue se délier. « Te voilà donc » s'écriait-il. « Te voilà enfin, terre de l'histoire, des sciences et de la poésie. Voilà ton beau ciel et tes brillants horizons. Que de grandes choses n'as-tu pas vues à travers les siècles écoulés. Tu es le berceau de la civilisation. Chez les anciens, Hérodote, Pythagore et Platon sont venus s'éclairer à ta lumière. » Pompée est mort sur ton sol et César s'y est ennobli. Alexandre le Grand y a bâti une ville qui porte encore son nom. À l'heure solennelle du rachat du monde, l'enfant Dieu, fuyant les bourreaux d'Hérode, l'a demandé un asile. Saint Louis t'a visité. Bonaparte t'a conquise et Kléber t'a arrosé de son sang. Ô vieille terre d'Égypte, vénérable patronne du genre humain, je te salue.
On était déjà dans le port. Les chaloupes de débarquement s'approchaient.
À terre, mes amis, à terre, dit Jacques. Le devoir avant tout. Allons sans retard déposer notre plainte chez le consul de France.
De toutes les villes d'Orient, Alexandrie est celle qui a le plus de ressemblance avec nos cités d'Europe. Cette antique cité, fille d'Alexandre, qui sous les Ptolémées s'était accrue au point d'exciter la jalousie de Rome, et qui était alors sans contredit la deuxième du monde, qui, au VIIe siècle, comptait encore plusieurs millions d'habitants et renfermait, dit-on, dans une enceinte de 4 lieues de tour, 400 théâtres, 4000 palais, 4000 bains, 12000 boutiques, n'a presque plus rien de ses quartiers primitifs. Les premiers lieutenants de Mahomet ont passé par là et ont tout détruit. Alexandrie a été construite à nouveau plusieurs fois. Ainsi, l'on y a élevé des hôtels dans le goût des auberges confortables de l'Occident. De riches négociants anglais, italiens, allemands et français y ont d'importantes maisons de commerce. Les portefaix y savent à peu près toutes les langues. Des navires portant à la vergue de leur mât les principaux pavillons connus y vont et viennent sans cesse, chargés d'objets de négoce et d'argent. Aussi n'est-il pas possible d'y faire 100 pas dans les rues sans y rencontrer le frac noir de Londres et l'habit à la dernière mode de Paris. Leur démarche au consulat français terminée, les voyageurs consacrèrent un jour à visiter la ville. Il était convenu qu'ils laisseraient le cormoran louvoyer sur ses mers. L'Égypte était une contrée trop nouvelle pour eux pour qu'ils ne cédassent pas au désir de la voir avec quelque lenteur. « Mes enfants, nous irons jusqu'au Caire à pied, » disait Jacques. Dès le lendemain, au lever du jour, ils étaient équipés, comme il fallait l'être pour une longue marche dans les sables ou sur les rives du Nil. Si l'Égypte est intéressante à visiter, il faut bien dire aussi qu'on ne peut la parcourir sans avoir à affronter des périls de toutes sortes. Les jeunes gens s'étaient munis chacun d'une carabine, soit pour repousser l'agression des bédouins voleurs, toujours embusqués près du grand fleuve, soit pour chasser les animaux de toute famille qui se présentent sur le chemin.
« Je déclare nettement la guerre aux crocodiles !» s'écria Robert Kergorieux. « Je jure d'exterminer les serpents !»«
N'y a-t-il pas aussi des hippopotames à rencontrer ?»
demandait Claude Marteau. « Eh, pas tant de zèle, mes amis !» répondait Jacques. « Chez nous, en Europe, quand on parle des rives du Nil, on exagère singulièrement l'horreur des rencontres qu'on a toujours à y faire. L'hippopotame n'y vit que comme une exception. Sans doute les autres monstres y sont plus nombreux, mais ils y sont beaucoup moins redoutables. » Au bout d'une centaine de pas, Claude Marteau attira l'attention de ses deux amis sur quelque chose d'étrange.
« Que voyez-vous donc là, à travers les roseaux et les glaïeuls du fleuve ?»
Robert se préparait déjà à armer son fusil, comme s'il voulait tirer dans la direction indiquée.
« Halte là, étranger ! Arrêtez-vous et ne tirez pas sur l'oiseau sacré où vous êtes perdu !»
Ils tournèrent la tête du côté d'où paraissait venir ce brusque avertissement. Dans le creux d'une ravine située à 20 pas d'eux, ils aperçurent un homme vêtu d'un caftan vert et ayant la tête entourée d'un turban. Cet inconnu avait une longue barbe blanche qui ondoyait jusque vers le milieu de la poitrine. À côté de lui se trouvaient plusieurs vases en terre cuite dans la forme des amphores antiques. En voyant s'approcher les trois voyageurs, il se leva et, devinant sans doute qu'il avait affaire à des Européens, il leur parla en français, langue qui paraissait leur être familière.
« Tout à l'heure, leur dit-il, en entendant le bruit de vos pas, je me suis levé une première fois, et je vous ai vu au moment où l'un des trois allait mettre en joue un ibis du fleuve, un ibis sacré. Gardez-vous bien de vous laisser aller à commettre une pareille profanation. Tout Égyptien qui vous eût surpris dans un pareil moment n'aurait pas manqué de vous faire un mauvais parti.
Quoi ? Demanda Robert Kergorieux. L'ibis du Nil est donc encore aujourd'hui un oiseau sacré en Égypte, comme du temps d'Hérodote ?
Oui, toujours.
Il vint à eux et reprit. Tenez, regardez-le.
Y a-t-il rien de plus beau et de plus inoffensif ?
Il a un peu plus de 2 pieds de hauteur. L'extrémité de son bec forme une faux mortelle pour les serpents et pour les insectes. Il porte au cou des plumes blanches comme celles du cygne, et il n'est pas moins doux que lui. »
Ici, l'oriental crut voir que les voyageurs le regardaient lui-même avec des yeux étonnés.
« Vous êtes français, » dit-il, « et cela excite votre surprise que de me voir parler votre langue avec une certaine facilité. Vous allez bien vite me comprendre. En 1798, il y a longtemps, comme vous voyez, j'étais un enfant de ce pays, un petit paysan de 10 ans, le fils d'un pauvre fellah. Un jour du mois du Lion, un grand bruit résonna par là-bas. C'était l'armée française qui se faisait ouvrir les portes d'Alexandrie à coups de canon. Mon père, pêcheur de son métier, esclave des baies mamelouks, me dit « Voilà des étrangers, des Français qui viennent chez nous, mais cela ne nous regarde pas, puisque nous sommes sous la domination des mamelouks, cavaliers de Circassie, nos maîtres du jour, qui sont aussi des étrangers pour nous. Ainsi, demeurons tranquilles. »
Pas du tout. Au bout de 8 jours, l'armée s'avance par ici. On prend de force mon père pour guide, mais on le traite avec douceur. Et quant à moi, on m'attache au service du général en chef. Je vois encore ce dernier, après 40 ans de souvenirs, un petit homme maigre, pâle, très simplement vêtu, avec de longs cheveux qui retombaient sur ses épaules, la parole brève, et l'homme toujours en mouvement.
« On aura soin de cet enfant-là, dit-il. Je veux qu'on lui apprenne le français à dater d'aujourd'hui. » Et j'eus, en effet, pour maître un des nombreux savants qui avaient suivi l'expédition. Tout le temps qu'a duré l'occupation, j'ai entendu parler et j'ai parlé moi-même votre langue. Ne soyez donc plus si émerveillés de voir que je puisse causer avec vous. »
L'oriental, qui, pareil à Sancho Panza, paraissait être des plus loquaces, s'arrêta un instant, mais pour reprendre bientôt, en poussant un gros soupir.
« Ah ! Si l'expédition française eût réussi jusqu'à la fin, point de doute que je n'eusse eu un sort brillant. Mais Allah et le prophète ne l'ont pas voulu. Le général en chef avait promis de me prendre sous sa protection. Mais qu'y faire ? Les Français repartis, je suis redevenu un pauvre fellah comme auparavant. Pour vivre, je me suis établi marchand d'eau. »
« Marchand d'eau ? » s'écria Robert. « Quelle est cette profession ?
L'équivalent de ce qu'est dans votre pays celle de marchand de vin. En Orient, la loi ne permet de boire que de l'eau. D'ailleurs, nous avons, notamment en Égypte, des sources d'une saveur délicieuse. Sur la table des riches figurent des bouteilles d'eau de diverses qualités dont on fait la politesse à ses convives. Eau des sources du Nil, eau des cataractes du Nil, eau distillée du Nil, eau des rochers libyques. Il y a aussi des eaux de diverses années qu'on met en bouteille, qu'on bouche et qu'on goudronne soigneusement. » Puis, pour donner une idée plus nette encore de son industrie, il ajouta « Au fait, l'hospitalité étant la coutume invariable de l'Orient, je vous invite, étrangers, à venir chez moi à 1 lieue et demie d'ici, dans cette bicoque bâtie au milieu d'un petit bouquet de palmiers. Du temps des pharaons, c'était un palais. La tradition veut que la fille du roi qui sauva Moïse des eaux y ait élevé le petit hébreu proscrit. Aujourd'hui, ces mêmes murs sont l'asile d'un modeste fellah qui vend de l'eau du Nil moyennant un para à la bouteille. » Tout en parlant ainsi, il descendait dans la ravine et, choisissant la plus grosse de ses amphores, « En attendant que vous me suiviez, reprit-il, faites-moi l'honneur de goûter de cette eau. Elle est excellente pour le goût et pour la fraîcheur,
dirent-ils après avoir bu. Le marchand d'eau les invita aussi à s'asseoir un instant dans sa ravine, à l'abri du soleil, qui était fort ardent. Tant de bienveillance jointe à tant de simplicité séduisait les voyageurs. Cette volubilité de langage leur plaisait aussi singulièrement, puisqu'ils entendaient la langue de leur patrie, et que, d'ailleurs, l'homme rappelait des souvenirs d'une grande et poétique époque à laquelle il avait été mêlé. Ils ne firent donc aucune difficulté de s'asseoir à côté de lui dans la ravine. Ibrahim se mit à fumer et il leur demanda d'en faire autant. Ici, Jacques seul accepta.
« À propos, reprit-il, l'immobilité orientale n'est ni de votre pays ni de votre âge. À la saison de la vie où vous êtes, on a besoin d'activité. Je vois que vous aimez la chasse. »
« Je ne vous cache pas que ce sera une passion pour moi, » répondit Robert Kergorieux.
« Eh bien, écoutez, s'il n'est pas permis d'envoyer ici du plomb dans les ailes d'un ibis sacré, on a tout loisir de se livrer à un autre exercice. Voulez-vous faire la chasse aux crocodiles ?»
Les enfants hésitèrent un instant.
« Je vois, » reprit l'oriental en souriant, « que vous êtes comme tous les Européens. » Vous croyez le crocodile beaucoup plus à craindre qu'il ne l'est réellement.
Mais n'est-ce pas en effet un amphibie terrible ?
Cela dépend. Notez d'abord que celui de notre pays se sauve toujours avec vitesse à l'aspect de l'homme. Ce n'est que lorsqu'il se trouve dans l'eau qu'il a quelque audace. Placez-le sur le sable ou même sur les rives du Nil, un enfant armé lui fera peur.
Fort bien. « Mais comment s'y prend-on pour lui faire la chasse ?»«
Il y a plusieurs manières, » dit le marchand d'eau. « L'une est en usage chez les nègres des bords du Nil. Pour attaquer l'ennemi dans l'eau, le noir arme sa main droite d'un couteau solide et pointu et couvre son bras gauche entier d'un fourreau de cuir très épais. Ainsi préparé, il s'avance vers le crocodile et lui présente le bras gauche en travers de la gueule. L'animal ne manque pas de s'en saisir. » Mais comme il a la langue en grande partie soudée à la voûte palatine, il ne peut changer la direction de l'objet qu'il a pris dans ses mâchoires. Il s'efforce en vain de l'avaler ou de le faire tomber dans l'eau pour le happer ensuite plus commodément. Pendant ce temps, le nègre enfonce son couteau de la main droite dans la chair de la mâchoire inférieure, qui est fort tendre. L'eau se précipite dans la gorge du monstre et il est à la fois asphyxié et submergé en peu d'instants.
« Cette méthode est bonne pour le Soudan et pour les rives du Nil bleu, » objecta Robert Kergorieux. « Mais en Égypte, comment fait-on ? » ?»«
La chose est encore beaucoup plus simple. Nos Égyptiens s'arment seulement d'un fort bâton et, s'approchant du crocodile avec précaution, ils assènent un coup violent sur l'extrémité des mâchoires et les brisent, car ces os ont peu de solidité, malgré la force terrible avec laquelle ils broient ce qu'ils tiennent une fois. » Par ce seul coup, l'animal est mis hors de combat et doit mourir en peu de jours, à moins que son antagoniste ne profite d'un premier avantage et ne le tue sur le champ.
La halte avait duré assez longtemps. On se leva pour se remettre en route.
« Figurez-vous, reprit Ibrahim, que j'ai tout un campement par ici. Vous ne voyez là que la moitié de mon attirail. À 1 mille d'ici, nous rencontrerons un hôte. »
« Un hôte ? »
« C'est un Anglais, Sir James Primrose. Il est venu du Caire jusqu'en cet endroit précisément pour se livrer à la chasse du crocodile dont je vous parlais tout à l'heure. »«
À la chasse à coups de bâton ?»«
Sans doute. »
Robert Kergorieux n'était ni incrédule ni sardonique. Cependant, l'idée qu'il s'était toujours faite de l'amphibie ne lui permettait pas de supposer qu'on pût le dompter ou même le tuer avec une branche de coudrier ou avec un bambou. Jusqu'à ce jour, sur la foi de je ne sais quelle tradition, il avait cru qu'on tuait le crocodile ou à coups de hache ou même en déchargeant, au défaut de sa cuirasse, un pistolet chargé à balles. Ibrahim, dont l'œil était doué d'une grande et rapide pénétration, comprit bien vite cette hésitation du jeune homme.
« Mon petit monsieur, dit-il, je vois que mes paroles ne vous ont pas pleinement convaincu. Eh bien, comme nous arrivons près de Sir James Primrose, vous allez voir par vos yeux.
Le témoignage de vos regards ne vous trompera pas. »
Très peu d'instants après qu'il eut prononcé ces paroles, ils entendirent quelque chose qui ressemblait au piétinement d'une cavale sur le sable et sur les cailloux.
« Voilà mon Anglais !» reprit Ibrahim.
De loin, en effet, ils apercevaient un cavalier en selle, non sur un cheval, mais sur un de ces ânes magnifiques de l'Orient que les gens du pays ne songent jamais à tourner en dérision tant ils sont utiles et beaux. L'insulaire était armé d'un long bâton à l'aide duquel il faisait toutes sortes d'évolutions énergiques.
« Mais il est en lutte avec un crocodile ?» s'écria Jacques.
Rien de plus vrai. De loin, les voyageurs pouvaient être témoins de cette scène. Un crocodile à dos jaunâtre, sorti des eaux, s'échappant par le détour d'un sentier, ouvrait sa gueule immense à la vue du cavalier et de sa monture. Sir James Primrose, équipé en véritable gentleman, de manière à ne pouvoir pas être démonté, s'avançait résolument sur le monstre et, malgré l'épouvante du quadrupède, il frappait à coups redoublés l'horrible saurien sur la mâchoire. Cependant, les voyageurs s'étaient avancés. Le crocodile aux trois quarts assommé par la main vigoureuse de l'Anglais se débattait encore. De sa queue, assez aiguë et assez solide pour briser tout obstacle, il essayait d'atteindre ses ennemis lorsque le marchand d'eau crut devoir s'adresser à Robert.
« Eh bien, mon jeune monsieur, lui dit-il, voilà, si vous le voulez, le moment de chasser le crocodile à l'européenne. Mettez-le en joue !»
Robert ne se le fit pas dire deux fois. Au même instant, un long cri, pareil au vagissement plaintif d'un enfant, sortit du gosier du monstre en même temps qu'un sang noir. Le crocodile était mort.